France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
En ce triste anniversaire, celui des attentats de janvier 2015 à Paris et à Montrouge, voici notre série de cette semaine, Terrorisme, le sens d'un mot. Car c'est un mot difficile à cerner, terrorisme. Peut-être à cause de cette notion même de terreur qui est en son cœur. La terreur, c'est ce qui fait trembler énormément. C'est une peur majeure, une peur singulière, de celle que peuvent provoquer les choses divines, si on y croit. De fait, l'histoire même du mot terreur nous invite à aller regarder du côté de la terreur religieuse. Nous en parlerons dès demain. Mais terrorisme, c'est aussi une notion politique et juridique. Or, que de flou autour de ce mot dans l'histoire du droit interne des États modernes, comme dans l'histoire du droit international. Et pourtant, c'est souvent le mot obligé, celui devant lequel on n'aime pas voir certains reculer, comme si leur hésitation ou leur refus exprimait toujours une certaine complaisance à l'égard des meurtres commis. Je vous propose de laisser de côté l'air du temps et de faire plutôt de l'analyse sémantique, politique et juridique. Dans toute notre série, mais particulièrement dans ce premier épisode, où nous avons invité deux spécialistes des concepts juridiques et de leurs origines. Épisode indispensable si on se souvient que philosopher, c'est d'abord travailler des concepts. Bonjour Virginie Sansicot.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'Institut catholique de Paris, chercheuse associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vos travaux, dont les références sont sur notre site, explorent l'histoire du droit et de la justice face à la violence politique. Et bonjour Serge Sûr.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de droit public de l'Université Paris Panthéon-Assas et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes un des meilleurs spécialistes français de droit international. Vos travaux dans ce domaine sont abondants, précisés eux aussi sur notre site. Merci tous les deux d'avoir accepté ce travail délicat de débroussaillage de la notion juridique de terrorisme. Alors pour commencer cette discussion, rappelez-vous, c'était le 7 janvier 2015 en fin de matinée.
Le parcours des tueurs commence par une erreur. Il est 11h25 quand ils se présentent au numéro 6 de la rue Nicolas Appert. Les deux hommes menacent la factrice pour entrer dans l'immeuble. Une première balle fuse, mais les tueurs se rendent compte qu'ils se trompent d'adresse. « Où est Charlie ?» demande-t-il. « Au numéro 10. » Une fois dans l'entrée, les tueurs se retrouvent face à deux agents de maintenance. Là, ils tuent une première fois. Frédéric Boisseau, 42 ans, s'écroule. Dans l'escalier, ils croisent une dessinatrice du journal satirique. « Où est Charlie ?» répète-t-il. Elle les envoie au troisième étage pour les égarer. Quand ils redescendent au deuxième, la dessinatrice est devant l'entrée du journal. Cette fois, Kalachnikov sur la tempe, elle tape le code pour ouvrir la porte d'entrée blindée. Les tueurs ont eu du mal à trouver les lieux, mais ils savent très bien que chaque mercredi à 7h, Charlie Hebdo est en pleine conférence de rédaction. Ils foncent. Première question, qui est Charb ? Le directeur du journal est le premier à être exécuté. Méthodiquement, les terroristes abattent 9 personnes, en blessent 11. Un journaliste a pu se réfugier sous une table. Laurent Léger nous raconte la scène au téléphone.
Écrit deux fois « Allahu Akbar ». Allahu Akbar. D'accord. Ça dure quelques secondes en réalité, mais j'ai eu l'impression que ça durait très très longtemps. Je ne sais pas qui est blessé, qui est mort, je vois que des corps par terre. Et puis tout d'un coup, c'est le silence parce qu'il a arrêté de tirer.
Les frères Saïd et Chérif Kouachi se revendiquent d'Al-Qaïda au Yémen. Après le massacre à Charlie Hebdo, ils se retranchent dans une imprimerie en Seine-et-Marne où ils seront tués par le GIGN le 9 janvier. Ils connaissent Amédi Coulibaly qui lui tue une policière à Montrouge le 8 janvier.
Pour la première fois, Anne accepte de raconter l'accident de ce 8 janvier qu'elle rejoue sans cesse dans sa tête depuis 3 mois.
Voilà, ça c'est ma voiture.
Une seconde d'inattention au volant la projette ce matin-là sur le trottoir. Elle percute une autre voiture et termine en travers de la route.
Très vite après, dans mes souvenirs, donc sont arrivés les deux agents de police, un monsieur et une jeune femme. Et cette jeune femme, c'est Clarissa.
Clarissa Jean-Philippe a 25 ans. Anne sera la dernière à échanger quelques mots avec cette jeune policière municipale. La tuerie de Charlie Hebdo vient de se produire. La policière rassure Anne, choquée par son accident.
par rapport à ce qui s'était passé hier, voilà, elle me disait, écoutez, c'est pas grave, ça arrive, c'est un accident de la c'est un simple accident de la circulation, ça arrive. Vous êtes, vous êtes vivante. Il y a le monsieur Fabrice, la personne n'a rien, on est tous sains et saufs. Donc finalement, l'essentiel était là et quelques secondes après, il n'était plus là.
Anne se souvient du chaos qui a suivi ce bref dialogue.
Je reconnais le bruit d'une arme à feu. Ce qui m'a fait me protéger et me retrancher sur ma voiture, c'est un monsieur, je crois, qui disait « il y a un tueur, il a tué la policière, cachez-vous, tout le monde se cache, cachez-vous, cachez-vous ».
À ce moment-là, malgré les tirs et les cris, Anne et les autres témoins de la scène espèrent encore que la jeune policière a survécu. Mais ils sont tous conduits à l'hôpital où ils finiront par apprendre le décès de la jeune femme.
Hamedi Coulibaly se réclame de l'organisation État islamique ou Daesh. Le lendemain, il est encore à l'œuvre. C'est le 9 janvier 2015.
En rang serré, les forces de l'ordre progressent vers l'épicerie cachère. Il est 17h, la foule autour panique et s'éparpille. C'est l'assaut qui débute. Des tirs nourris pendant de longues secondes. Des grenades assourdissantes sont lancées. Un policier de la brigade recherche et intervention semble atteint. Il s'effondre. Silence. Puis les otages sortent de l'épicerie, dans la plus grande confusion. Ceux-là ont la vie sauve, mais dans l'épicerie, 5 corps seront retrouvés, 4 otages semble-t-il, et celui du preneur d'otages, Hamedi Coulibaly, 32 ans, qui visiblement n'agissait pas seul. La prise d'otages avait débuté vers 13h, quand un homme lourdement armé ouvre le feu porte de Vincennes dans ce magasin d'alimentation cachère. Les hommes du raid sont rapidement déployés tout autour. À cet instant, 2 suspects, Hamedi Coulibaly et sa compagne, Ayad Boumedienne, sont activement recherchés. Ce soir, l'homme a été abattu, mais sa compagne, elle, aurait peut-être réussi à s'enfuir. Elle est toujours activement recherchée.
Nous devons ces 3 extraits sonores à France 2 et à BFM TV. Ils rappellent cette terrible semaine de janvier 2015. Les assassins étaient connectés à des organisations extérieures à la France, au territoire français, mais ils ont agi sur le territoire français. Par ailleurs, ils étaient eux-mêmes français. Est-ce que, Serge Sûr, cela explique que ces crimes relevaient naturellement, si j'ose dire, du droit interne?
Je dirais qu'il relevait essentiellement du droit interne, ce qui n'exclut pas qu'il puisse relever, par ailleurs, du droit international. En l'occurrence, s'agissant des attentats du 7 janvier, le droit international n'a pas été invoqué. Il l'a été plus tard, après les attentats du 13 novembre, où là, il y a eu des actions punitives qui ont été conduites en Syrie, sur la base de la légitime défense. Donc là, nous étions dans le domaine du droit international. Mais il me semble que sur le plan interne, on s'est soucié avant tout de judiciariser ces attentats. Et pour cela, pour la judiciarisation, on a besoin d'une définition. Vous parliez des concepts. Alors, le terrorisme, on peut le saisir sur le plan intellectuel et essayer d'en donner une définition générale, qu'elle soit une définition purement doctrinale, qui n'a pas de contenu positif. Moi, je dirais que c'est l'atteinte illégale à finalité idéologique ou politique aux personnes, aux biens et aux institutions. Et aux institutions, parce que l'objectif du terrorisme, c'est toujours de porter atteinte aux institutions. Le moyen, c'est peut-être de porter atteinte aux individus, à leurs biens et à leurs personnes. Mais en réalité, ce qui est visé, c'est l'État. Parce qu'il s'agit soit de modifier son comportement, soit de neutraliser son comportement. Et donc, il y a toujours cette dimension politique. Et c'est là où se pose le problème, d'ailleurs, sur le plan juridique. Parce que dès lors que vous avez une notion politique, elle est par définition floue. Elle est par définition relative.
Oui.
Il faut faire des choix. Et j'observe que la définition du terrorisme qui est donnée en 86 est une définition qui est extrêmement critiquable.
Dans la loi, donc, du 9
septembre
1986.
Voilà. Ont un caractère terroriste les atteintes aux biens et aux personnes lorsqu'elles sont commises intentionnellement avec pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le terrorisme est défini par la terreur. Franchement, c'est une tautologie, ça n'apporte pas grand-chose. Et je trouve que cette définition manque l'essentiel, qui est la finalité. Parce que ça permet de distinguer l'action terroriste et donc tout le processus judiciaire particulier qu'elle va entraîner, ça permet de la distinguer du gangstérisme ou de ces meurtres de masse qui sont commis dans les universités américaines lorsqu'un étudiant se met à tirer sur ses camarades dans un campus, ce n'est pas du terrorisme.
Pourquoi pas ?
On peut dire que c'est un meurtre de masse.
Pourquoi ?
Parce que l'objectif, il est personnel. C'est le ressentiment personnel. Et l'acte trouve sa satisfaction en lui-même. De la même manière que le gangstérisme. Lorsque vous prenez des otages dans une banque, la satisfaction, c'est d'avoir de l'argent. Donc c'est un but privé. Alors que le terrorisme, c'est un but public. C'est toujours d'intimider l'État.
Et Virginie, oui ?
Ou alors de l'intimider, ou alors de le mettre au défi.
Mais à travers, vous êtes d'accord, l'atteinte des personnes, donc de la
ou
société.
Ou aux institutions. Lorsque vous en prenez un commissariat, par exemple, c'est une atteinte aux institutions,
oui.
Ou à une
quand
mairie.
Quand vous en prenez à une salle de spectacle, comme ce sera le cas en novembre 2015 au Bataclan, aujourd'hui nous parlons surtout de janvier 2015, mais toute cette année a été terrible.
C'est un moyen.
Et lorsqu'on n'est pas dans une rédaction journal ou dans un supermarché, ce ne sont pas directement les institutions, ce sont les personnes, c'est la société civile, comme on dit.
Non ? Ah oui, non, mais c'est toujours l'État qui est en cause. C'est un moyen, en fait. Le fait de s'en prendre à des individus ou à des biens, c'est toujours le moyen pour mettre au défi l'État. Parce que ce qui compte, c'est la réaction que l'État va avoir. Et on va peut-être montrer son efficacité ou son inefficacité. Et là, je renvoie à ce théologien de la libération qui était Dom Helder Camara, au Brésil, dans les années 60. Et lui disait, vous avez trois formes de violence. Vous avez la violence institutionnelle, qui est le fonctionnement tranquille des institutions. C'est déjà une violence, parce qu'en réalité, c'est une forme de domination, et de domination injuste. Contre ça, vous avez la violence insurrectionnelle. Et la violence insurrectionnelle déclenche quoi ? La violence répressive de l'État. Et vous révélez la véritable nature de l'État, qui est avant tout tournée vers la répression.
C'est ce que souhaitent les terroristes.
Bien sûr, voilà. Ils veulent mettre à jour la véritable nature de l'État, selon eux, qui est une institution d'oppression. Et donc, il se réclame de la libération, c'est la résistance à l'oppression. Après tout, la résistance à l'oppression, c'était le fondement de la résistance sous l'occupation, sous le régime de Vichy.
Ce qui pose le problème de la qualification terroriste, souvent utilisée pour évoquer les résistants. Mais je voudrais, Virginie Sansicot, qu'à votre tour, vous essayiez de nous expliquer pourquoi, en janvier 2015 en tout cas, d'emblée, c'est un problème qui concerne le droit interne et non pas le droit international. Et au passage, si vous me le permettez, dans cette question, je voudrais en poser une autre. Comment ça se décide, ça ? Est-ce qu'il y a parfois des hésitations, une tentation d'aller chercher le droit international, peut-être pour solenniser davantage, ou au contraire, est-ce que les États, lorsqu'ils pensent avoir affaire à du terrorisme, aiment juger par eux-mêmes avec leur propre droit ?
Alors effectivement, les attentats commis en France relèvent de la problématique avant tout française. Déjà d'une part parce que le terrorisme n'existe pas en droit international en tant que tel, ne fait pas partie des crimes d'atrocité de masse qui sont reconnus par les instances internationales, hein, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, nettoyage ethnique qui tourne un petit peu autour de tout ça. Donc de fait, ces événements-là relèvent prioritairement du droit interne.
Prioritairement. Alors, si vous le voulez bien, parce que malgré tout, et vous êtes l'une qui me l'a très bien expliqué quand j'ai regardé sur quoi vous travaillez, malgré tout, le droit international a essayé de s'emparer de la notion de terrorisme. On va essayer de comprendre ensuite pourquoi, et pourquoi surtout ça a relativement échoué. Mais commençons par le droit interne. Vous avez évoqué, Serge Sur, la loi de 1986, qui a donc défini le terrorisme étrangement par l'intimidation ou la terreur, ce qui est un peu un pléonasme. Mais à partir de quand la notion est-elle vraiment entrée dans le droit interne ? Il y a eu des attentats anarchistes dans la décennie 1890 en France. On a fait des lois permettant de réprimer ces auteurs anarchistes. On les a appelés les lois scélérates, hein, en tout cas de leur point de vue, j'imagine.
Du point de vue des opposants.
Du point de vue des
trouvaient liberticides.
Voilà. Est-ce que ces lois prononçaient le mot terrorisme ?
Pas du tout.
Pourquoi pas ?
Parce que ce n'était pas une notion qui était pensée au plan juridique à ce moment-là. C'était encore une notion très floue et une notion avant tout politique. Hein, une notion qui venait d'ailleurs de la Révolution française. Hein. Le terrorisme, c'est le terme qui est employé par les thermidoriens pour dénoncer la terreur de Robespierre. à partir de 1794. Mmh. Donc on a une notion qui vient de là, donc il y a une notion qui est très politique initialement, qui va évoluer progressivement au cours du 19e siècle pour ne plus seulement définir un terrorisme, un système de terreur, un régime de terreur, ce qui était la définition initiale, pour venir définir des actes commis par des organisations plutôt non étatiques contre l'État. Hein, c'est ce qui va être le cas effectivement de l'anarchisme, sans toutefois que cette notion s'applique tellement à ce moment-là, s'applique du tout à ce moment-là au plan juridique aux anarchistes. Hein, ça va plutôt rester dans le domaine politique.
Alors, pour ce qui concerne le mot, est-ce que en droit interne, la grande rupture après laquelle le mot est vraiment utilisé, c'est Vichy?
Alors, c'est effectivement la première rupture, puisque les deux premières occurrences, hein, les deux premières apparitions de la notion de terrorisme en droit français, c'est en 1943 et en 1944. En 1943, dans le cadre d'une loi qui vient de modifier les compétences des sections spéciales, qui était cette juridiction qu'on connaît en général bien, parce qu'il y a eu le film de Costa Gavras, donc qui a rendu assez célèbre ces juridictions, qui initialement, en 1941, visaient les communistes et les anarchistes d'ailleurs. Et puis, avec l'évolution de la résistance en 1943, il est décidé d'étendre les compétences de ces juridictions pour sanctionner plus largement la résistance. Et ces juridictions vont désormais, à ce moment-là, être compétentes pour les activités anarchistes, communistes, subversives et terroristes. Et c'est la première apparition de ce terme en droit français.
Je vous propose d'écouter l'inénarrable Philippe Henriot sur la radio de diffusion nationale Vichy en janvier 1944.
Le gouvernement français vient de promulguer une loi qui n'aura pas manqué de frapper l'opinion. Le terrorisme qui s'était arrogé le droit de disposer de la vie et des biens des Français, qui supprimait par l'assassinat les gardiens de l'ordre, les magistrats soucieux de remplir leurs devoirs et même les simples citoyens loyaux, le terrorisme qui se flattait d'avoir par sa brutalité même conquis une manière d'impunité, qui interprétait la longanimité des pouvoirs publics comme un aveu de faiblesse, vient de voir se dresser devant ses desseins criminels un barrage implacable. L'institution des cours martiales, la proclamation que quiconque aura donné ou voulu donner la mort sera puni de mort, il y a longtemps que certains réclamaient ces mesures, devenues non des mesures de représailles ou même de répression, mais simplement des mesures de légitime défense.
Serge Sûr, Vichy, Philippe Henriot, cet extraordinaire, terrifiant porte-parole que nous venons d'entendre, tout cela produit un renversement. Avant terrorisme, on en parlait pour des États, la terreur d'État, ça venait d'une certaine période de la Révolution française. Tout d'un coup, c'est utilisé pour parler d'individus qui s'attaquent, le disiez-vous, à l'État. Vraiment, vous aussi, vous considérez que Vichy est le grand tournant pour ce mot terrorisme?
Oui, je pense que dans le droit positif, en tout cas, c'est le tournant, oui. Personnellement, je n'aime pas beaucoup l'idée que l'État puisse être terroriste. Je crois qu'il y a là une confusion, parce qu'il me semble que le terrorisme, c'est une stratégie du faible au fort, c'est une stratégie d'acteurs privés, d'acteurs non étatiques.
Donc vous trouvez heureux, pardon, qu'on sorte de l'ancienne idée que de la terreur d'État?
Oui, je crois que c'est... Bon, c'est vraiment deux notions complètement différentes, à mon sens. La terreur, au sens de la Convention, c'était tout de même une politique, avant tout une politique, qui n'impliquait pas nécessairement la violence, mais qui impliquait des mesures de répression générale avec tout l'appareil de l'État. Tandis que ce qu'on appelle le terrorisme, disons à partir du XXe siècle, et du milieu du XXe siècle, c'est avant tout l'action d'acteurs privés, d'acteurs non étatiques, qui mettent au défi l'État. Donc nous avons un renversement, en quelque sorte. C'est une stratégie du faible au fort, c'est une stratégie dont les moyens sont relativement limités, et dont l'effet est disproportionné par rapport aux moyens. Si vous prenez, par exemple, l'attentat du 7 janvier 2015, vous avez des conséquences politiques qui sont énormes, qui sont gigantesques, par rapport au fait lui-même qu'on pourrait après tout considérer comme un fait divers. Et je dirais même pour les attentats de 2001 contre le World Trade Center.
N'empêche qu'il n'y a pas tellement souvent des journalistes qui sont tués dans leur rédaction, comme Charlie Hebdo, et il n'y a quand même pas très souvent des tours majeurs et qui incarnent quelque chose de la modernité architecturale et urbaine qui, dans lesquelles rentrent deux avions. Quoi.
Oui, nous sommes bien d'accord. Ce sont des événements majeurs, mais l'effet est disproportionné par rapport au fait lui-même. Parce que les attentats du 11 septembre deviennent un phénomène mondial qui entraîne une rupture, mais une rupture véritablement importante dans les relations internationales universelles, par rapport à ce qui est malgré tout un événement local. D'ailleurs, certains disaient, mais au fond, c'est un problème pénal américain. Il faut que les États-Unis s'emparent de la question et jugent les responsables.
Voilà, nous arrivons à notre problème de fond dans cette émission. Les États aiment-ils, en général, juger les affaires de terrorisme, eux-mêmes, avec leur droit interne, ou bien le fait que des terroristes aient des liens évidents à des organisations externes, voire à des États, financés par des États, est-ce que cela contribue, même si c'est difficile, à essayer de traiter la chose par le droit international ?
Serge. Alors, le droit international, il a connu une évolution qui est très importante. Pendant un certain temps, alors qu'il y avait des actes terroristes qui se déroulaient, des attentats, notamment contre l'aviation civile, on ne disait rien. On n'employait pas le mot terrorisme. Et notamment à propos du terrorisme palestinien, dans les années 70, ou à partir des années 60, on a utilisé toute une série de périphrases. On a adopté des conventions internationales où on parlait des incidents qui troublent le transport aérien. On n'employait pas le mot terrorisme. Le tournant, c'est 92. 92, c'est très intéressant parce que c'est après la chute de l'URSS.
Oui.
Et en 92, il y a les attentats de Lockerbie, qui concernent un avion de la Paname, qui se crache au-dessus de l'Écosse. Et puis, il y a un autre attentat contre un avion français au-dessus du Sahara. Et on considère que ce sont les responsables libyens qui sont en cause.
Oui.
Et là, le Conseil de sécurité va se saisir de l'affaire. Il va employer le terme de terrorisme. Et il va prendre toute une série de mesures coercitives contre la Libye, en demandant, ce qui est tout à fait inusité, la remise par la Libye de certains de ses nationaux à un tribunal écossais.
Oui.
Et la Libye ne s'incline pas, et on prend des mesures coercitives supplémentaires, et en définitive, la Libye accepte. Et elle remet 4 de ses ressortissants, qui vont être jugés par un tribunal spécial qui se tient à La Haye, mais qui applique le droit écossais. C'est vraiment le tournant majeur, 92.
D'accord.
À partir de là, le Conseil de sécurité va s'intéresser au terrorisme, et à partir du 11 septembre 2001, il va adopter toute une série de mesures contre le terrorisme, qui sont des mesures tout à fait dérogatoires et tout à fait universelles et coercitives.
Le problème conceptuel, c'est ça notre sujet ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire terrorisme en droit interne, on vient d'en parler, et en droit international ? Le problème n'est-il pas que, dès que le droit international veut s'en mêler, son concept à lui, c'est la guerre, et la guerre entre des États. Il faudrait mettre la notion de terrorisme à l'intérieur de la guerre. Normalement, il y a un droit de la guerre qui est le socle à partir duquel ont été créées les notions de crimes de guerre, mais aussi de crimes contre l'humanité et crimes de génocide. C'est une histoire un peu parallèle, c'est pas le même juriste, c'est Lemkin et non Lauterpacht qui a créé la notion de génocide. Lauterpacht, au moment du tribunal de Nuremberg en 1945-46, a fait valoir essentiellement le crime contre l'humanité. Ce sont des approches différentes et puis ce sont deux lignes parallèles qui se rejoignent néanmoins dans la convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité où figure le mot génocide. Mais tout cela nécessite de la guerre interétatique. Virginie Sensico, est-ce que ce n'est pas cette dimension-là guerrière, interétatique, qui empêche de traiter correctement la question du terrorisme.
Alors, en tout cas, c'est ce qui complexifie, qui rend quasi impossible la définition, un consensus sur une définition de la notion de terrorisme. C'est ça aussi la difficulté, puisque tout à l'heure on évoquait le fait que le terrorisme s'apparente plutôt à un affrontement asymétrique entre des organisations et des États, mais des organisations qui potentiellement sont soutenues par des États. Définir le terrorisme au plan international, on peut globalement, et on arrive globalement à quelques critères qui font consensus. Pour autant, identifier qui sont les terroristes derrière cette définition-là, il y a un désaccord profond entre États qui est quasi systématique. Puisque les résistants des uns sont les terroristes des autres, etc. Et ce consensus-là, on n'y parvient pas en réalité. Oui. Donc c'est ça plutôt le problème qui se pose en réalité.
Doublé peut-être, Serge Sûr, vous me direz ce que vous en pensez, d'un autre problème qui est que l'opinion publique est maintenant habituée, c'est affreux de le dire, mais aux horreurs du terrorisme. Et on a presque l'impression que ce mot est plus fort que le mot classique du droit international, crime de guerre, acte guerrier criminel, voire crime contre l'humanité. On a l'impression que aujourd'hui, terroriste, c'est le mot, quoi. C'est d'ailleurs le mot, par exemple, le 7 octobre 2023, qu'on a sommé de tout le monde de prononcer.
Alors, il y a une charge très négative, effectivement, du terme terrorisme, mais je voudrais revenir un petit peu sur l'idée que la lutte internationale contre le terrorisme amène une guerre interétatique.
Oui.
Avec ça, je ne suis pas d'accord, parce que en réalité, c'est une guerre contre les acteurs non étatiques. Et si vous prenez soit l'exemple d'Israël en 2006, allant pourchasser le Hamas, le Hezbollah, pardon, sur le territoire libanais. Il a bien été précisé par Israël, et personne ne l'a contesté, que Israël ne faisait pas la guerre au Liban, mais faisait la guerre au Hezbollah. Mm-hmm. Et ceux qui ont reproché à Israël son action l'ont fait au nom de la proportionnalité, en disant cette action est disproportionnée. Nous reconnaissons qu'Israël est en état de légitime défense, mais cette action est disproportionnée. C'est un petit peu la même chose, d'ailleurs, pour ce qui a suivi le 7 octobre 2023. Ceux qui critiquent ne contestent pas qu'Israël est en droit de se défendre, mais disent qu'il y a une disproportion. De la même manière pour l'Afghanistan en 2001, rappelez-vous que les États-Unis ont demandé aux talibans, qui gouvernaient alors l'Afghanistan, de remettre Ben Laden, qui était sur le sol afghan, et considéré comme responsable des attentats. Et c'est dans la mesure où les talibans ont refusé l'ultimatum en disant aux États-Unis « Mais apportez-nous les preuves de sa culpabilité. Si vous êtes dans un processus judiciaire, nous avons besoin des preuves pour le livrer. » À partir de là, les États-Unis ont dit « Ben, vous êtes complice et donc on va vous taper dessus. » C'est ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas véritablement une guerre interétatique. C'était une guerre dirigée contre Al-Qaïda,
oui,
sur le territoire afghan,
oui,
en considérant que l'Afghanistan était soit complice, soit défaillant.
Mais alors, si ce n'est pas interétatique, même s'il y a des, vous venez de le rappeler, des intérêts étatiques, le problème, c'est qu'il s'agit parfois de pays qui n'arrivent pas à juger en droit interne. Vous prenez l'exemple du Liban. Normalement, ça arrive sur son territoire, c'est un acte terroriste. On pourrait dire la logique, c'est qu'il s'en empare en droit interne. On sait juste que le Liban, c'est compliqué. L'État libanais est un sujet en soi. Donc, est-ce que ce n'est pas à cause de la faillite de certains États qui ne peuvent pas s'emparer de la question du terrorisme que cette question s'internationalise et passe au droit international ?
Alors, c'est une défaillance plus générale. Ça n'est pas simplement une défaillance judiciaire. C'est aussi une défaillance sécuritaire, parce que l'État n'est pas en mesure d'assurer l'ordre public sur son territoire. Donc, la défaillance de l'État, elle est plus générale. Mais nous revenons au problème de la définition. En droit international, il n'y a pas de définition universelle. Il y a des définitions, mais elles sont partielles, parce qu'elles peuvent être dans une convention qui n'est pas acceptée par tout le monde, donc il n'y a pas de définition universelle. Mais ce qui est important, dès lors qu'on a une approche qui n'est pas judiciaire, parce que pourquoi a-t-on besoin d'une définition ? C'est pour juger, en fonction du droit pénal. Il faut des définitions qui soient précises, principe nulla crimen sine lege. Mais dès lors qu'on est dans une logique sécuritaire, comme vous disiez, guerrière, ce qui est celle du droit international. C'est une logique sécuritaire. On n'a pas besoin de définition. On a besoin de qualification. Et ce qui importe, c'est que le Conseil de sécurité, face à une situation donnée, puisse dire « ce sont des actions terroristes » ou « ce sont des groupes terroristes ». Et c'est ce qu'il fait. Donc, il n'a pas besoin de définition. Il lui suffit de qualifier soit la situation, soit un groupe de terroristes. Et à partir de là, s'ensuit soit l'autorisation des États d'utiliser la force, comme avec la résolution 1368 du 12 septembre 2001, soit des actions judiciaires éventuelles, mais comme vous le dites, le statut de Rome ne prévoit pas le terrorisme comme incrimination, mais en définitive, le terrorisme, il se surajoute à des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et donc, c'est une mention supplémentaire, en quelque sorte. De la même manière qu'en droit interne, les actions terroristes sont déjà des crimes. Ce sont des crimes, ce sont des meurtres, ce sont des assassinats, tout ce qu'on veut. Mais le terrorisme y ajoute une dimension supplémentaire qui va justifier un appareil judiciaire particulier.
Et du coup, en droit international, la notion de terrorisme, si elle apparaît, se retrouve liée à des notions comme celle de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, parce que c'est cela la base.
S'il y a judiciarisation.
D'accord.
Mais
d'accord.
Pour le moment, le droit international s'intéresse surtout à la dimension sécuritaire. Et donc, par exemple, après le 11 septembre, on autorise les États-Unis à employer la force pour réparer, en quelque sorte, et pour éviter que ce type d'événement ne se reproduise.
Alors, je dis à nos auditeurs que nous sommes cette semaine en train de vous proposer une série sur le mot de terrorisme, le sens de ce mot très complexe qui va nous emmener dans beaucoup d'endroits de l'histoire politique et juridique. Et ce matin, nous évoquons la notion très floue, finalement, de terrorisme en droit interne, en droit international. Je suis en compagnie de Virginie Sansicot et de Serge Sûr, qui sont d'éminents spécialistes de ces questions. Alors, le droit international, ça fait longtemps quand même qu'il y a pas mal de gens, Virginie Sansicot, qui ont envie de le mettre sur la notion de terrorisme, de lui faire intégrer cette notion de terrorisme. La SDN, Société des Nations, qui est donc l'ancêtre de l'ONU et qui travaille beaucoup dans les années 1920-1930, avait cette velléité. En particulier, m'avez-vous expliqué dans vos écrits, après l'assassinat en 1934 à Marseille d'Alexandre Ier de Yougoslavie par des milices oustachis, c'est-à-dire croates, à l'époque de l'ex-Yougoslavie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors donc effectivement, sur le territoire français, donc à Marseille en 1934, est assassiné donc Alexandre Ier de Yougoslavie, le ministre des Affaires étrangères français Bartou est assassiné aussi par ricochet ce jour-là. Donc c'est un séisme politique, puisqu'en plus sont incriminés des oustachis croates. Donc on a un écho un petit peu à 1914, hein, les Balkans, une crise internationale, des tensions très vives. Donc c'est évidemment un séisme politique international. Et là, effectivement, il va y avoir une réaction importante au plan international. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexion était déjà en cours. Il y avait une association internationale de droit pénal qui réunissait des figures très importantes, des juristes de l'époque, dont Raphaël Lemkin, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui réfléchissait à toutes ces notions et qui commençait à réfléchir autour de la notion de terrorisme.
Et si j'ai bien compris, il n'était pas pour la mettre en droit international.
Lemkin n'était pas très favorable.
Ouais.
Il disait que c'est dangereux parce que c'est une notion qui est trop politique et dont on ne parviendra pas à un consensus sur la définition. Bon, il était assez visionnaire.
En tout cas, là, n'assistons-nous pas là encore à un bon exemple de faillite du droit interne, parce que ces tueurs oustachis de Alexandre Ier de Yougoslavie partent en Italie, ils ont tué à Marseille, et donc si on est dans le domaine du droit interne, ce qu'il faut obtenir, c'est l'extradition par l'Italie de ces tueurs. Donc ce sont vraiment des histoires d'État à État. Or, n'est-ce pas parce que ça ne marche pas bien que justement on essaye de mettre dans cette histoire du droit international et une juridiction de type international?
C'est effectivement un point central. C'est la question de l'extradition et la question du droit d'asile qui se pose dans l'entre-deux-guerres. On est dans la période de l'esprit de Genève, etc. Pour les juristes internationaux et pour les diplomates, on a un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que normalement, un criminel dit politique, il peut réclamer le droit d'asile à un État pour échapper aux poursuites qui pèseraient sur lui dans le pays où il a commis son crime. Et là, la question, c'est de se dire, est-ce que ce type d'acte, qu'on commence à qualifier de terroriste, entre dans cette catégorie de crimes politiques dont les auteurs peuvent bénéficier du droit d'asile. Et en réalité, c'est ça qui est en train de se poser. Et créer une notion de terrorisme au plan international, c'est créer une catégorie nouvelle, à part, qui ne serait ni du droit commun, ni de la criminalité politique, mais une notion à part, qui ferait que les auteurs pourraient être extradés, pourraient échapper au droit d'asile.
Alors, comme la Société des Nations avait créé une Cour permanente de justice internationale, en 1937 est signée une convention pour la prévention et la répression du terrorisme. Ce sont les premiers pas de cette notion en droit international. Premier pas vite terminé. Serge Sûr, pourquoi ? Parce que c'est une histoire bancale sur le plan conceptuel dès le début ?
Écoutez, l'ASDN, de façon générale, c'est une organisation qui avait de très bonnes idées, mais qui n'avait pas les moyens de réaliser ses idées.
Oui.
Et le terrorisme en est un exemple. Cette convention a été peu ratifiée, et puis c'était quelques années avant le déclenchement de la guerre qui a mis fin aux activités de l'ASDN. Donc, on peut dire que c'est une tentative avortée, et qui n'a pas été véritablement reprise après la guerre, sauf que il y a tout de même eu un effort pour codifier les principes de Nuremberg, et l'idée de crime international est apparue à ce moment-là,
oui.
Et l'idée de répression que ça a impliqué. Mais ça n'a abouti à rien jusqu'à ce qu'il y ait les tribunaux pénaux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda.
Cela dit, dans tous ces cas, il s'agit de juger des individus responsables au niveau de l'État, pas des acteurs non étatiques. 24 inculpés très haut placés dans le Troisième Reich à Nuremberg.
Non, mais les individus sont des acteurs non étatiques.
Oui, mais là, en l'occurrence, ils incarnaient l'État nazi, les premiers à Nuremberg.
Oui, mais ce n'était pas l'État qui a été jugé. L'État bénéficie d'une immunité pénale absolue. Et ça a été discuté, d'ailleurs, aussi bien dans la convention, dans le projet de convention sur la responsabilité internationale des États. Certains voulaient qu'il y ait une responsabilité de type pénal. Ça a été écarté. Et la responsabilité internationale, qui existe, elle n'a aucun caractère pénal. En revanche, ce qui est pénal, ce sont la poursuite d'individus.
Oui.
Peu importe
leur lien au régime,
leur responsabilité, leur puissance dans le cadre de l'État, même les chefs d'État sont justiciables de la Cour pénale internationale.
Oui.
Même les chefs d'État. Mais ils sont dépouillés, en quelque sorte, de leur statut officiel et ils sont rendus à la vie civile, si je puis dire. Et ils sont considérés comme des individus quelconques.
Et donc, il n'y a aucune objection de cette nature, c'est-à-dire impliquant la présence de l'État, il n'y a aucune objection à ce que la Cour pénale internationale juge des individus qui n'ont rien à voir avec une responsabilité étatique, mais qui sont juste des individus dans des organisations non étatiques semant de la violence. Il n'y a aucune objection.
C'est même pour cela que la Cour pénale a été créée. C'est pour juger des individus.
Donc du terrorisme éventuellement.
Alors, éventuellement du terrorisme, mais qui ne sera pas qualifié comme tel devant la CPI, qui sera qualifié de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, parce qu'on arrive toujours à rattraper malgré tout les personnes poursuivies par des incriminations. Ça va dépendre du procureur, puisque c'est lui qui va définir le champ des poursuites.
Alors maintenant, je voudrais vous faire réagir précisément à un propos de Jean-Luc Mélenchon qui faisait partie après le 7 octobre 2023, de ceux qui ne prononçaient pas volontiers le mot terrorisme. Ce qu'on sait parfois moins, c'est qu'il l'a justifié en essayant de prendre le droit, et précisément en disant que le droit international n'utilisait pas ces catégories. Je vous propose d'écouter son propos, et de commenter cela en tant que juriste.
Alors on me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste !» Et vous vous demandez pourquoi, depuis 2 jours, nous refusons de le faire. Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroriste sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Nous appelons crime de guerre tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée ou à l'assassiner, comme le Hamas l'a fait sur le territoire d'Israël, s'il est confirmé les abominations dont on nous parle dans les kibbutz. Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes ou les mettre sur le compte de la lutte Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés. Ce n'est pas lutter que de tuer des gens comme s'ils étaient collectivement responsables. Si bien que si notre droit prévoit en effet la reconnaissance d'actes terroristes, à échelle internationale, les actes qui sont connus et susceptibles d'être jugés sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
C'était Jean-Luc Mélenchon, le 11 octobre 2023, à l'occasion d'une conférence qu'il tenait à Bordeaux. Je voudrais votre commentaire de juriste, Serge Sûr, sur ce qu'il fait là, c'est-à-dire ne pas utiliser le mot terrorisme, dit-il, à propos du 7 octobre, pour faire valoir exclusivement des catégories du droit international qui, en effet, ne mettent pas terrorisme en avant de manière aisée.
Non, mais il a été très mal conseillé, parce qu'il se place uniquement sur le terrain judiciaire. Et il est vrai que le terrorisme n'est pas une incrimination judiciaire des juridictions pénales internationales existant aujourd'hui.
Donc ce raisonnement juridiquement est correct.
Sur le plan judiciaire, oui. Mais pas sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme est une catégorie du droit international. Il est utilisé régulièrement par le Conseil de sécurité, qui est une institution juridique plus puissante que les tribunaux internationaux, puisque le Conseil de sécurité est en mesure de prendre des décisions qui sont obligatoires avec des mesures coercitives contre l'ensemble des États. Et il l'a fait en matière de terrorisme. Donc dire que le terrorisme n'est pas une catégorie de droit international, c'est absurde.
Pourtant, c'est ce que nous venons de voir ensemble là, depuis une bonne demi-heure, que le terrorisme n'est pas une catégorie aisée, naturelle du droit international.
Et qu'elle ne soit pas aisée est une chose, mais qu'elle soit une catégorie, c'est une catégorie. Oui. Simplement, son contenu est flou et mobile.
Oui.
Parce que cela dépend des qualifications du Conseil de sécurité. Et on sait bien que c'est à la fois une institution et une coalition. Le Conseil de sécurité, il a une nature ambiguë. Il est à la fois coalition des membres permanents et institution internationale. Et puis, c'est aussi une institution qui prend des décisions juridiquement obligatoires, juridiquement contraignantes, et qui l'emporte sur toute autre norme internationale. Et puis, c'est un organe politique. Bon, mais le fait qu'il ait une nature juridique n'empêche pas qu'il ait une importance politique.
Oui, même si, donc, toujours pour aller dans le sens du fait que, en termes de catégorie juridique, ce n'est pas ce qui est mis au premier plan, la Cour pénale internationale, reconnaissant l'État de Palestine, c'est peut-être important d'ailleurs cette notion, vous me le direz, a lancé des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre Ismaël Haniyeh, Yahya Sinwar, et puis contre celui qu'on appelle Deif depuis le 21 novembre 2024, concernant la période depuis le 7 octobre 2023. Donc là, c'est vraiment pas terrorisme qui est utilisé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Virginie Sancicot, de ces polémiques autour des mots, vous qui êtes spécialiste de l'histoire de ces catégories juridiques?
Il y a deux champs qui se percutent en réalité. Il y a le champ du droit. Et il y a le champ de l'affrontement politique. Et dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, on est là aussi. Il se réfère au droit, mais bien sûr qu'il y a un discours aussi qui est politique. Donc, bien sûr qu'au plan du droit, le terrorisme est une catégorie juridique internationale, n'est pas une qualification juridique, par exemple, qui n'est pas présente dans le statut de Rome. C'est ça la nuance, en fait, pour résumer.
Et c'est pour ça que la Cour pénale internationale ne l'utilise pas, nous venons de le voir.
Elle ne peut pas l'utiliser.
Et donc, mais comme Serge Sûr, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon qui semblait donner là une leçon de droit, nous l'avons entendu, était malgré tout très mal conseillé, voire cachait un sous-discours dans le discours.
Moi, je pense qu'il est pas très mal. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit très mal conseillé. Je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ?
Il rappelle le droit international parce qu'il sait que c'est une référence dans dans les rapports politiques internes et internationaux, donc en se fondant sur le droit international et en disant des réalités, c'est qu'effectivement, en droit international...
Il oublie le Conseil de sécurité.
Oui, lui, mais par plein de qualifications...
C'est pas rien, le Conseil de sécurité en droit international. Ouais. Tout bien de même, sûr. Les résolutions de 1368 et 1373, c'est pas rien. Vous avez dans la résolution de 1373 du 28 septembre 2001 un programme complet et obligatoire pour tous les États de lutte contre le terrorisme. Le terme est employé. On ne peut pas dire que ça n'est pas une catégorie du droit international. On impose aux États de prendre des mesures internes pour la prévention et la répression du terrorisme. Et on leur demande de faire rapport dans les 6 mois au Conseil de sécurité sur ce qu'ils ont fait, afin de cibler les États qui n'ont rien fait, afin de pouvoir les dénoncer. Ce n'est pas rien. Dire que ce n'est pas une catégorie du droit international, c'est absurde.
D'autant que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, oui, par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Mais Mélenchon parle de justice, en fait.
Voilà,
si on doit les juger,
justice,
ça sera de guerre.
De mais donc le droit international ne se réduit pas à la Cour pénale internationale.
Il joue avec l'ambiguïté, bien sûr.
Et vous pensez que c'est grave?
Je pense qu'il a reçu là-dessus les conseils de juristes belges.
Ah,
oui, il y a une doctrine belge de droit international qui est une doctrine importante, intellectuellement puissante et militante.
En tout cas, il y a quand même une chose notable dans l'opinion publique, c'est que, je ne sais pas à la faveur de quoi, mais le mot terrorisme semble bien plus fort. Il y avait quand même une horreur le 7 octobre qui donnait envie d'employer les mots les plus forts. C'est bien plus fort dans l'opinion publique que de dire crime de guerre et peut-être même que de dire crime contre l'humanité, qui sont les catégories juridiques que la Cour pénale internationale a utilisées à propos du Hamas le 7 octobre 2023. Comment vous expliquez ce problème du poids des mots, Serge Sûr?
Écoutez, je crois qu'effectivement, terrorisme, il y a une aura qui est une aura extrêmement négative et qui concerne tout le monde, parce que tout le monde peut être victime d'attentats terroristes. Alors qu'être victime d'un crime de guerre, on n'y pense pas beaucoup. Et même d'un crime contre l'humanité, c'est pas une chose dont on a une frayeur quotidienne. En revanche, on sait que le terrorisme, si on prend le métro, après tout, on peut être victime d'un attentat. Donc ça touche tout le monde. Et ça touche tout le monde d'une manière totalement imprévisible et totalement disproportionnée. Et je crois que c'est cette dimension-là qui impressionne l'opinion publique. D'autant plus que le terrorisme, il a été un peu partout. Il a été mondial, en fait. Sur tous les continents, il y a eu des actes terroristes, oui, dans les 20 ou 30 dernières années. Donc tout le monde se sent concerné par ça. Tandis que le crime de guerre, c'est une catégorie plus technique, ou crime contre l'humanité, c'est plus technique, c'est plus juridique, ça intéresse les avocats, ça intéresse les professionnels, ça intéresse moins l'opinion publique.
Alors, j'avoue que crime contre l'humanité, qui est quand même le crime imprescriptible, j'ai longtemps pensé personnellement que c'était le mot le plus énorme. Et je m'aperçois que terrorisme, dans l'opinion publique, est beaucoup plus fort. Et c'est vrai que, malgré ce que vous venez de dire, qui est une explication très intéressante, je reste un peu surprise. Et vous, Virginie Sancicot ?
Le droit de la guerre, enfin, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et même le génocide, c'est venu codifier les relations entre les États et les conflits entre les États. Mais finalement, on discutait d'État à État. Le terrorisme, ça exclut totalement. On ne négocie pas avec le terrorisme, on ne négocie pas avec les terroristes. Donc on est hors du champ quand on est terroriste. Ça permet vraiment d'exclure totalement et de désigner l'ennemi à travers cette expression-là, plus que les notions qu'on connaît du droit international, crime de guerre, crime contre l'humanité, et pourtant qui recouvrent des phénomènes d'une violence inouïe.
Et là aussi, il y a des effets d'opinion. Je crois que la seule notion qui paraît lourde, absolument lourde, la seule qui dise l'horreur absolue en droit international, c'est génocide. Ce qui explique peut-être l'inflation de l'usage, oui, de cette notion. En somme, nous aurions terrorisme ou génocide. Oui. Vous avez le choix, mais surtout n'utilisez aucun autre mot si vous voulez dire l'horreur d'un massacre.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison.
C'est pas un peu inquiétant?
Pour
ça.
Moi, le génocide, c'est une catégorie de crime contre l'humanité. Et c'est une catégorie dont on pourrait discuter l'utilité. Parce que je crois que le crime contre l'humanité peut suffire. Et s'il doit y avoir une querelle entre l'Outerpart et Lemkin, je suis plutôt du côté de l'Outerpart. Mais enfin, c'est un autre débat. Oui. Simplement, je voudrais revenir sur la définition en droit international. Il faut dire qu'en droit international, tous les concepts de rupture, et le terrorisme, c'est un concept de rupture, c'est-à-dire, oui, que vous avez une rupture de l'ordre ordinaire, du fonctionnement ordinaire des normes, des institutions, eh bien, tous les concepts de rupture ne sont pas définis. Qu'il s'agisse de la force, qu'il s'agisse de la légitime défense, qu'il s'agisse de l'agression, qu'il s'agisse du terrorisme, vous n'avez pas de définition.
Et c'est voulu ?
Et c'est voulu, bien sûr, c'est volontaire. Parce qu'une définition, ça enferme. Et que ça limite, et qu'on peut toujours la contourner. Tandis qu'une qualification, elle vient ex post facto, elle vient sur un fait, sur une situation donnée, et on peut l'identifier et la qualifier. Tandis que si vous définissez l'agression, par exemple, eh bien, vous aurez toujours des moyens de contourner la définition. Et donc, l'approche sécuritaire, elle demande des qualifications, elle ne demande pas de définition.
Autrement dit, vous diriez que le droit international est fondamentalement politique et non juridique, si ça a du sens de parler comme ça.
Il est juridique, mais le droit aussi a une dimension
oui,
politique.
Bah oui.
Le code civil, il n'y a pas d'acte politique plus important au 19e siècle que le code civil. Mais la nature juridique n'empêche pas l'importance politique. Et donc, avec le droit international, on agit politiquement. Et simplement, la société internationale, au fond, elle comporte trois registres. Vous avez un registre politique, qui est un registre pacifique, qui suppose qu'on prenne des décisions collectives de façon pacifique. Vous avez une société qui est polémique. Vous savez, c'est une discussion qui remonte à Plutarque. Hein. Plutarque distinguait déjà société politique et société polémique, qui est régie par la guerre. Et puis, vous avez une société judiciaire qui est propre, finalement, au XXe siècle et qui est émergente. Vous avez une société internationale judiciaire qui commence à émerger, mais on ne sait pas jusqu'où elle ira et si ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau.
Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trick. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché.
Alors, puisque cette semaine nous repensons à cette terrible semaine de janvier 2015 avec trois jours d'attentats en France, nous avons proposé en chanson de fin « J'ai embrassé un flic » de Renaud qui a écrit cette chanson à propos de la grande manifestation qui a suivi ces trois jours, donc en janvier 2015. Merci beaucoup Virginie Sansicot et Serge Sûr. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au calcul. Voici le pourquoi du comment.
Comment fonctionne le calcul ? l'un des phénomènes qui transforme le monde aujourd'hui en profondeur et sur lequel il faudra revenir de plus d'une façon dans les semaines, les mois et les années qui viennent, c'est bien entendu la puissance de calcul. La puissance qui fait que le calcul peut transformer le monde et bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de puissance de calcul, on ne parle même pas de la puissance de calcul des êtres humains, de savoir si vous êtes plus ou moins bon en calcul, de savoir même comment notre cerveau est fait pour pouvoir calculer. Nous parlons de ces machines qui calculent à une vitesse infinie, qui dépassent peut-être la puissance des êtres humains ou qui leur donnent une puissance disproportionnée qu'ils avaient déjà dans d'autres domaines, dans d'autres techniques, par d'autres techniques, mais qui, à travers le calcul, ont peut-être changé le monde entier. C'est ce qui ouvre aussi la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle et qu'il va falloir continuer en ces années qui viennent de plus d'une façon et chacun ou chacune comme nous le pouvons et comme nous le devons. Mais pour y réfléchir, peut-être faut-il se demander d'abord comment fonctionne le calcul en général. Qu'est-ce que cette opération, puisqu'il s'agit bien toujours d'une opération, ces opérations parfois élémentaires que nous apprenons à l'école, qu'il faut apprendre à l'école, ces opérations que nous désignons sous le nom de calcul. Qu'est-ce donc qu'un calcul en général? Qu'entend-on par calcul? Pourquoi ce mot qui vient, comme on le dit souvent, comme on le rappelle souvent, et on a raison, de mot latin qui voulait dire le petit caillou, le calcul c'est un diminutif, calculum, comme il y a le musculum, le muscle c'est la petite souris. Pourquoi la petite souris? Parce que c'est la comparaison qui venait aux Romains en voyant se tendre les biceps sous les bras des êtres humains. Eh bien, le calcul, ce petit caillou, c'est très simple. C'est parce que calculer, c'est faire une opération sur des éléments distincts qu'on prend arbitrairement comme pôle de référence. On prend des petits cailloux, un et un autre caillou, et en les additionnant, voici une opération possible, je les prends ensemble et je dis qu'il y a deux cailloux. On appelle calcul, donc, une opération qui, à partir d'éléments considérés comme isolés, les transforme pour arriver à un résultat qui soit les additionne, soit les soustrait, mais qui, en tout cas, les envisage du point de vue abstrait de leur nombre, du point de vue abstrait de leur quantité pure, en faisant abstraction de leurs autres qualités. Je considère les petits cailloux uniquement comme des petits cailloux. À la limite, les points dans l'espace sont la limite du petit caillou dans le monde. Le point dans l'espace, c'est ce qui n'a d'autre qualité que de se distinguer d'un autre point par sa séparation même. Les grands philosophes de l'espace, comme Kant ou Bergson, l'ont bien montré, la distinction des points est une distinction pure, sans qualité. Le caillou est pur caillou. Quand je veux calculer le nombre de cailloux, je fais abstraction de leur forme, de leur poids, de leur couleur, de toutes leurs qualités sensibles. Je ne considère que les cailloux comme des unités. Quel que soit au fond le calcul, il procédera toujours comme ça. Voyez par exemple les pixels. Avec des pixels, vous reconstituez une image très complexe, une image d'un sourire, une image d'un visage, une image de la beauté du monde, d'un coucher de soleil ou au contraire d'une horreur qui explose aux yeux dans des photos peut-être manipulables par Internet. Mais justement, cette pixelisation du monde est à la source de la calculabilité de tout l'imaginaire humain désormais, de ces opérations qui font que le calcul, dans son opération la plus abstraite et la plus simple, rejoint aujourd'hui par des moyens infiniment puissants toute la variété et toute la diversité qualitative du monde. Calculer a été souvent critiqué par les humains pour sa réduction de la raison à l'abstraction, mais beaucoup de calculs nous ramènent aussi à tous les dangers du monde. Il faut donc réfléchir sur l'essence, sur les limites, sur la norme aussi, sur les bons usages et les mauvais usages de ce petit caillou dans la chaussure, ce petit calcul qui peut tout changer.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riad Kera et Nicolas Berger, avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!